François Delotte, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Alors François Delotte, sans transition, c'est votre émission, mais aujourd'hui on inverse les rôles. Eh bien oui, on a envie de changer un peu les choses, avec le printemps sûrement.
Oui.
Alors aujourd'hui, nous allons ensemble, François Delotte, rendre compte du numéro 10 du magazine Sans Transition, du mois de mars, un numéro dont José Bouvet fait la couverture.
Oui, tout à fait, José...
Allez-y, pardon.
Oui, José Bové, qu'on a eu la chance d'avoir en grand entretien. Donc, c'est pour nous doublement intéressant, parce que José Bové, déjà, c'est quelqu'un, c'est un personnage emblématique, on va dire, de la région, des luttes régionales, hein, pour une agriculture paysanne, respectueuse de l'environnement, du revenu des agriculteurs, et puis aussi un altermondialiste emblématique. Donc, et qui aujourd'hui, on le sait, un député européen, donc voilà, à la fois un personnage régional, mais qui, évidemment, dépasse ce cadre régional, et on a eu envie de revenir avec lui sur tout un tas de sujets, notamment des sujets d'actualité, hein, qui concernent directement, ses prises de position, que ce soit la victoire contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, le sujet des zones à défendre avec le BUR, l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, et puis on a voulu parler avec lui de comment est-ce que lui envisage le fait de pouvoir aujourd'hui renverser la balance en termes de comment gagner l'opinion en fait aujourd'hui, comment arriver à mettre l'opinion de son côté pour pouvoir justement un petit peu remporter un certain nombre de victoires dans le cadre des luttes pour la préservation de l'environnement, notamment, mais aussi dans le cadre des luttes sociales, puisque tout ça est bien sûr lié.
Voilà, donc ce grand portrait, c'est vraiment à la fois une rétrospective et aussi une présence de José Bové dans le paysage politique aujourd'hui.
Oui, ça reste aujourd'hui quelqu'un c'est quelqu'un qui est déjà qui a été précurseur en fait sur ces sujets-là, qui a contribué à les mettre sur le devant de la scène, avec notamment, on se souvient du McDo de Millau, du démontage de McDo de Millau, et puis qui, maintenant que les ces sujets sont des sujets que tout le monde aborde, enfin en tout cas on peut plus on est obligé de les aborder, ça fait partie de
des
grands enjeux de société.
Paysan, au-delà même de l'altermondialisme finalement.
Oui, bien sûr, puisque de toute façon tout le monde s'est emparé, était obligé de s'emparer du sujet de la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc c'est aussi une façon de, effectivement de lui rendre hommage, mais de revenir vers lui pour savoir comment est-ce que lui il envisage aujourd'hui ces combats-là.
Voilà, donc à lire dans le Sans Transition du mois de mars 2018, ce numéro 10 du mois de mars. Alors, un autre sujet qui parcourt peut-être d'une façon plus régionale le numéro de Sans Transition, c'est la 13e semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars. Il y a des manifestations en Occitanie. Est-ce que vous-même êtes acteur de cette semaine pour les alternatives aux pesticides?
Oui, tout à fait. Bon, les pesticides, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans le magazine. D'ailleurs, on en
Absolument.
Parle avec José Bové aussi.
Voilà, oui, mais c'est vraiment, ça traverse vraiment ce magazine. Et puis pas que celui-là aussi.
C'est un des grands enjeux de notre époque, les pesticides, donc effectivement, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, on a été partenaire jeudi dernier d'un café débat en fait qui a eu lieu au Gazette Café, organisé par France Nature Environnement sur la question en fait des alternatives aux pesticides dans la viticulture. Donc c'est un sujet qui intéresse particulièrement la région, puisqu'on sait que c'est une culture emblématique, la vigne, bien sûr, en Occitanie, particulièrement en Languedoc. On a beaucoup de viticulteurs bio aussi ici. Il y a une vraie dynamique autour du bio dans la viticulture régionale. Et donc, FNE a choisi d'inviter des viticulteurs pour qu'ils puissent venir nous parler de ces pratiques qu'ils ont mis en place. Hein. Et puis, il y avait aussi la référente du coup agriculture de FNE au niveau national, hein, Cécile Claverolle, qui est elle-même voilà, ingénieure agronome, qui est membre du Conseil social et environnemental, économique, social et environnemental, pardon, le CESE. Donc voilà, elle avait plein de choses à nous dire sur ce sujet, et notamment sur la question des sols, puisque c'est un sujet qu'elle connaît particulièrement bien.
François Delotte, dans ce numéro du mois de mars 2018, donc bien sûr sans transition, vous signez un article sur agriculture et apiculture, même combat. Alors, comment est-ce que vous faites ce lien entre les abeilles et l'agriculture?
Bah, on revient au sujet des pesticides, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, enfin depuis une vingtaine d'années, voire plus, enfin depuis le milieu des années 90 en fait, pour être clair, il y a eu un effondrement de la population d'abeilles dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays. Bon, les scientifiques, les professionnels ont fait progressivement le lien avec un certain nombre de pesticides, hein, qui sont utilisés sur les grandes cultures, et notamment les pesticides qu'on appelle néonicotinoïdes, dont fait partie le glyphosate, le célèbre glyphosate. Donc voilà, donc c'est des produits qui ont été interdits du coup sur certaines cultures, mais qui sont pas encore totalement interdits, et qui surtout qui sont très persistants. Donc c'est-à-dire qu'ils restent des années dans le sol,
voilà. et ce encore sont dans le sol
pendant plusieurs années. Ouais. Et donc ce sont des produits qui continuent à tuer les abeilles, mais on dit souvent l'abeille est sentinelle dans l'environnement. C'est quelque chose qu'on entend et que les apiculteurs et certains scientifiques ou associatifs mettent en avant, défenseurs de l'environnement. Effectivement, c'est vrai. Et si l'abeille meurt à cause des pesticides, d'autres insectes pollinisateurs meurent aussi à cause des pesticides, mais c'est moins visible, mais c'est néanmoins extrêmement inquiétant dans la mesure où ces pollinisateurs permettent, comme leur nom l'indique, de polliniser les plantes, donc de faire en sorte que les plantes puissent se reproduire. Et puis, du coup, le paradoxe, parce que pour en venir à l'article, c'est que l'agriculture, même conventionnelle, a besoin des abeilles pour, pour pouvoir exister telle qu'elle est, parce qu'elle a besoin des pollinisateurs pour polliniser ses propres plantes.
Et exister dans des conditions maintenant qu'on exige finalement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, moins polluante.
Oui.
Ça va ensemble.
Alors voilà, l'idée de l'article, c'est de se dire à la base, c'est finalement pourquoi même combat, c'est parce que l'agriculture, elle a besoin de ses pollinisateurs. Donc si on partait de l'abeille et du fait que l'abeille en fait aujourd'hui jouit quand même d'une image plutôt positive chez les citoyens et les citoyennes, voilà, auprès du grand public, pour faire changer les pratiques agricoles. C'est-à-dire que voilà, il faut au bout d'un moment arrêter d'utiliser autant les pesticides, si ce n'est arrêter complètement d'en utiliser. Alors l'article reprend tout un tas d'analyses scientifiques avec des gens de l'INRA, de l'Institut de l'abeille, voilà, qu'on a pu interroger, puis aussi des agriculteurs et des apiculteurs, et notamment, vous allez voir, des agriculteurs qui ont commencé à changer leurs pratiques pour justement travailler main dans la main avec les apiculteurs pour préserver les abeilles, donc des choses qui commencent à bouger. Donc voilà, je vous en dis pas forcément plus, je renvoie vers le dossier.
On va pas tout dire, voilà, mais quand vous dites des agriculteurs, c'est beaucoup d'agriculteurs ou ça commence tout juste à émerger cette sensibilité, cette sensibilisation aux abeilles?
C'est émergent, bien que les agriculteurs en sont conscients. Après, il y a de toute façon une collaboration entre agriculteurs et apiculteurs qui existe depuis, j'ai envie de dire toujours, parce que les ruches sont louées, en fait, elles sont louées par les apiculteurs aux agriculteurs pour polliniser. Donc on met des ruches à proximité des cultures. Et donc,
elles font partie de leur façon de travailler.
Il y a déjà cette collaboration, voilà. Sauf que des fois, les ruches sont décimées parce que les agriculteurs n'ont pas des bonnes pratiques ou parce que tout simplement les pesticides, le fait d'en utiliser, ça tue les abeilles.
Ça détruit ça.
Donc voilà, il y a cette conscience, elle existe, cette prise de conscience, elle existe depuis un certain nombre d'années, mais là, sauf qu'on commence à voir bouger timidement les pratiques. Après, il y a aussi les agriculteurs bio qui travaillent avec les apiculteurs bio depuis toujours, mais ça pose pas de problème puisqu'il n'y a pas de pesticides utilisés.
Pas de problème avec une pause musicale pour Sans Transition sur FM+. Sur FM+, 91 FM, avec François Delotte, on est en train de dérouler le numéro du mois de mars, le numéro 10 de la revue Sans Transition, le magazine des citoyens et citoyennes engagés. Alors nous avons évoqué des sujets nationaux, hein, le grand portrait avec de José Bové pour ce mois de mars, la question des alternatives possibles aux pesticides, la question de l'agriculture et de l'apiculture, même combat pour une écologie de l'agriculture. Et puis, dans cette deuxième partie, nous vous proposons, François Delotte,
oui,
d'évoquer des sujets plus régionaux qui se passent là, pas loin de Montpellier. Pouvons-nous commencer par la Maison de la Résistance à Saint-Jean-du-Gard?
Oui, alors Maison de la Résistance Abraham Mazel. Donc un sujet voilà, qui peut intéresser un certain nombre d'auditeurs d'FM+, puisque c'est... C'est une maison qui est animée par une association qui est voilà qui fait le lien entre le protestantisme qui est implanté depuis longtemps dans la vallée et l'idée de résistance en fait, hein. Donc c'est vraiment une belle maison sévenole traditionnelle qui est gérée par cette association voilà du même nom, Abraham.
C'est une sorte
Mazel.
De musée, c'est devenu un musée cette maison.
Voilà, c'est une sorte de musée, mais qui est pas destiné, si j'ai envie de dire, à mettre sous cloche les résistances, mais vraiment à parler des résistances d'hier pour vraiment nourrir les résistances d'aujourd'hui, sociales, écologiques, voilà les solidarités, et donc c'est une association extrêmement dynamique qui d'ailleurs ne fait pas que mettre en avant ces résistances, qui participe aussi à des luttes locales, qui a notamment participé à une lutte contre la construction d'un barrage localement, qui avec justement la paroisse protestante, on parle de paroisse d'ailleurs,
oui,
protestante qui a participé à accueillir des personnes migrantes. Voilà. Et donc Abraham Mazel, si on peut revenir dessus rapidement, en fait c'était un camisard, donc voilà il y a ce lien qui est fait avec les protestants qui ont lutté localement contre l'oppression d'un pouvoir qui qui les réprimait, enfin, vous savez mieux que moi de toute façon. Voilà, arbitraire.
Qui ne voulait pas de différence, au fond.
Voilà. Et du coup, on retrouve, alors, à la suite du reportage, une interview qui est... Bon, c'est pas moi qui ai traité ce sujet, mais alors, du coup, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, une interview de Patrick Cabanel, qui est le grand historien français du protestantisme, et qui nous explique pourquoi il y a cette tradition, en fait, dans ces vallées des Cévennes gardoises, de résistance, face notamment à l'État, en tout cas de vigilance par rapport à un État qui peut-être pourrait devenir un petit peu trop autoritaire. Et donc, il fait ce lien, il revient à l'histoire, et puis il fait le lien avec l'histoire ouvrière, ce qui est assez étonnant parce que on sait c'était des vallées minières, donc voilà il y a un lien avec entre protestantisme et socialisme et communisme et tout ça, donc c'est vous voilà je vous invite à découvrir cette interview qui est passionnante,
voilà, à lire dans Sans Transition,
oui,
de mars. Alors, toujours localement, toujours dans notre région occitane, nous allons aller un peu plus loin, nous allons aller du côté de Toulouse.
Oui, du côté de Toulouse. Alors, un autre reportage, on est allé voir une association qui est fortement intéressante, qui s'appelle Bois et Compagnie, et en fait, qui propose en fait des maisons bois écologiques, démontables pour des personnes qui souffrent du mal logement. Donc ce sont des solutions provisoires, on va dire, en tout cas à moyen terme. C'est des vraies maisons, en tout cas, hein, c'est vraiment... Elles sont,
c'est pas un bungalow.
Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ils proposent à la vente ce type de maison pour les particuliers. Ils ont une version, en fait. Donc, et bon, voilà, je vous invite à découvrir ce reportage. On est allé dans leurs ateliers, en fait, et c'est des ateliers, en plus, que, bon, voilà, c'est vraiment, on est dans l'économie sociale et solidaire, dans ce qu'elle a de plus intéressante, je trouve, parce que, bon, les personnes qui fabriquent les maisons sont employées via un contrat d'insertion, voilà.
Donc, une association du côté de Toulouse qui fait des maisons en bois pour des personnes qui ont des difficultés à se loger.
Voilà, tout à fait.
Et puis, on parle beaucoup d'engagement citoyen, d'engagement individuel, mais il y a aussi des communes qui, dans leur entité propre, s'engagent.
Tout à fait.
Comment ça se passe ?
Eh ben en fait c'est bon, on a eu envie de se pencher sur ce sujet parce que bon on peut constater comme ça en lisant les journaux, la presse engagée que il y a plein de petites communes en fait qui bon des communes souvent modestes hein,
qui 5 000 habitants,
parfois beaucoup moins. Quelques centaines d'habitants, parfois
à dimension humaine finalement,
parfois beaucoup plus entre oui voilà c'est ça taille humaine jusqu'à 9 000, 10 000 habitants qui mettent en place tout un tas d'action, de transition écologique, sociale, voilà, et solidaire, et des choses tout à fait concrètes, quoi. Et effectivement, ce sont des échelles où il y a une proximité entre équipe municipale et citoyens aussi. Et donc voilà, on a pris plusieurs exemples.
On peut en citer une ou deux communes ou c'est compliqué
hein? Ouais, tout à fait. On peut en citer une. Il y a dans la Drôme la commune de Saillant qui a mis en place. On en a pas mal parlé quand même, des actions de démocratie participative très 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 inclusive en fait, enfin ils sont allés très très loin dans la mesure où je vous invite à découvrir l'article où on explique comment ça fonctionne, mais le conseil municipal est presque effacé en fait par rapport justement les citoyens peuvent vraiment participer à la mise en place d'actions concrètes on a rencontré aussi une commune, enfin un élu d'une commune de Corrèze qui s'appelle Aïen, qui est petite commune de plusieurs centaines d'habitants et qui a mis en place de façon très précoce des actions de développement durable et notamment en fait qui a mis en place un système de covoiturage local qui est payé en monnaie locale, enfin ouais, des choses comme ça. Et puis on a rencontré c'est un peu loin de chez nous, enfin de Montpellier, mais c'est le maire de la commune de Los Angeles. Donc là, c'est vraiment une interview hein, dans le dossier qui est un maire écolo, hein, ELV, Europe Écologie Vert, qui est allé avec sa commune très très loin dans le développement durable et dans les actions aussi, même de solidarité. Hein, c'est vrai que, de toute façon, c'est, comme il l'explique, voilà, c'est quelque chose qu'il faut traiter ensemble, et c'est les deux faces d'une même médaille, et à tel point que bon, c'est devenu un laboratoire un peu national pour le développement durable. Même l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, donc qui est un organisme d'État, s'y intéresse. Enfin, c'est devenu un laboratoire. Enfin, voilà, un exemple pour cette agence. Gouvernementale et donc voilà, il parle de la façon dont on peut mettre en place localement des actions comme ça en ayant derrière lui et l'équipe municipale la population, quoi, et comment mettre en dynamique la population sur des terres en plus où il y a beaucoup de chômage. Et où les gens, et c'est ça en fait la face un petit peu sombre quelque part, c'est que où les gens votent Front National et au niveau national, aux élections nationales, les gens continuent à voter Front National des fois dans ces communes. Alors lui, il dit justement oui, mais regardez la commune d'à côté. En fait, on est sur des chiffres importants, mais on est les chiffres. Enfin voilà, les gens votent quand même bien moins Front National que la commune d'à côté. Donc ça veut dire quand même pour lui c'est une victoire. Enfin voilà, mais. Vous allez retrouver cet aspect-là qu'on traite dans le dossier aussi.
À lire
aussi.
En détail avec intérêt dans Sans Transition du mois de mars, le numéro 10. Enfin, un autre sujet qui est intéressant aussi, parce qu'on dit, voilà, on utilise Internet, on arrête d'imprimer, d'utiliser le papier, on garde tout sur nos écrans. Mais quel est l'impact écologique de l'utilisation du web finalement, François Delotte ?
Eh ben, il est relativement important et on le découvre dans une enquête, un dernier numéro de Sans Transition. Et donc, oui, alors il y a différents types d'impact en fait.
Hein. Voilà. Aussi, il faudra vraiment se plonger dans l'article parce qu'on vous donne quelques pistes de lecture. Mais...
Oui, et il y a des pistes d'amélioration aussi. On se rend compte, bon, on parle des serveurs notamment, qui dépensent énormément d'énergie, qui stockent nos données, qui chauffent. Comment récupérer cette... Est-ce qu'on peut récupérer cette chaleur? Voilà. Il y a la problématique aussi des, de tous les objets connectés aujourd'hui, hein, qu'on a tous, hein, les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, comment, dans quelles conditions, voilà, tous ces appareils sont fabriqués, avec quels matériaux, ça pose de gros problèmes en termes de développement durable, d'exploitation des ressources, et puis... aussi, il y a des gens qui sont exploités pour... faut le dire, c'est le mot pour extraire ces ressources. Mais il y a des solutions. Aujourd'hui, il faut développer des filières de recyclage. Il existe quelques entreprises qui... je vous invite à lire
l'article. Sans Transition ne s'intéresse pas qu'au bois, ne s'intéresse pas qu'à la vigne, ni aux abeilles, mais aussi à la technologie.
Tout à fait, mais ça fait partie de toute façon des grands enjeux contemporains.
Ouais. Et Sans Transition est là. Merci François Delotte pour ce numéro du mois de mars 2018, donc acheter en kiosque.
Mars-avril, donc c'est
bimestriel. Mars-avril.
Merci Guylaine.
Au revoir.
Au revoir.